Noir, jaune, blues, avec ce nom d'enquête qui a été mené 5 ans après la précédente, on découvre avec stupeur que l'autoritarisme fait partie assez massivement des souhaits de la population en Belgique. Plus fin que ça, on en parle avec le philosophe et politologue Vincent de Corbitaire.
La première.
Le fin mot, Eddy Kakelbergs.
Bonsoir Vincent de Corbitaire.
Bonsoir.
Avec des résultats qu'il faut commenter peut-être avec un peu plus de nuance, disons-le d'emblée, que ce qui a été fait jusqu'ici.
On a évidemment été très frappé, et à juste titre, par une série de chiffres très inquiétants sur un plan, disons, politique, démocratique. Des hauts niveaux vers les 60-70% d'approbation, de propositions qui vont dans le sens d'un gouvernement autoritaire, d'un homme fort qui remette de l'ordre, apparemment en faisant passer la démocratie par pertes et profits. Il me semble que quand on lit plus attentivement l'étude, c'est quand même nettement plus nuancé. C'est un système de propositions, de phrases toutes faites, et on voit les taux d'adhésion. Il y a plusieurs réponses massives en faveur de ce chef autoritaire, mais à chaque fois, moi je note une nuance forte, ce chef doit comprendre vraiment le peuple. Ou bien, le peuple doit décider directement lui-même, exprimer sa volonté, par exemple sous forme de référendum, d'initiative populaire, c'est autre chose que de s'en remettre à un chef tout puissant. Ou bien ce chef doit être élu, choisi par le peuple et sera la voix du peuple. Donc personnellement, ce qui me frappe, c'est qu'il y a ici une critique claire de la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne en Belgique, avec des partis politiques, des corps intermédiaires, des syndicats, des fédérations patronales, des groupes de pression, des experts, des processus longs dans lesquels on met en balance les intérêts, les priorités des uns et des autres. Tout ça paraît trop lent, inefficace, trop compliqué. Mais l'aspiration n'est pas à avoir un dictateur que de manière un peu masochiste ou sadique on voudrait laisser gouverner. Il s'agit bien de quelqu'un qui sera l'expression de la voix populaire. Et donc, il y a ici, entre les lignes, mais dans les lignes même aussi, un attachement à la démocratie, à son principe ultime, la souveraineté populaire. Le peuple doit voir sa volonté traduite en acte. Et donc, personnellement, je lis surtout un besoin d'efficacité. Avec alors une charge, on le voit dans l'approbation assez forte d'une phrase qui critique les non-élus, ceux qui empêcheraient la volonté populaire de s'exprimer, de se mettre pleinement en œuvre, des juges, des journalistes, fonctionnaires, lanceurs d'alerte, activistes. Il y a effectivement une dénonciation des élites, il y a une dénonciation de tous ceux qui introduisent de la complexité et qui font que la volonté populaire ne peut pas être suivie telle qu'elle, parce qu'elle est anticonstitutionnelle, ou qu'elle ignore certains intérêts, ou qu'elle ignore des principes de droit. Mais l'aspiration fondamentale consiste à dire « nous voulons être entendus, pris en considération, que nos difficultés soient résolues. Et s'il faut passer par quelqu'un qui a un pouvoir beaucoup plus direct et plus rapide, eh bien faisons-le. » L'alternative étant la démocratie directe elle-même.
Prenons quelques-uns des points que vous venez de soulever. Aspiration à cette personnalité qui va représenter, c'est quand même aussi d'abord une prime à ce qu'on appelle l'homme ou la femme providentielle.
Bien sûr.
Et puis, ça peut être une prime au populisme, parce que la manière de draguer alors cette majorité, on sait parfois ce que ça donne. On en a déjà vécu les exemples.
Oui. Je ne suis pas occupé à dire que cette majorité forte qui s'exprime en faveur de ce type de solution est rassurante. C'est exactement la voie qui a conduit à la présidence de Trump aux États-Unis, à celle de Bolsonaro au Brésil. On pourrait parler de Meloni en Italie, Marine Le Pen en France, qui n'y est pas encore, mais on ne peut pas l'écarter. Donc, il est clair que la récupération politique potentielle, mais qui n'est pas une simple vue de l'esprit, la récupération politique de ce type d'attente ou de vision des bonnes solutions est extrêmement dangereuse. Et il n'y a aucune illusion à se faire, évidemment, quant au fait que ce type de dirigeant va respecter la démocratie et répondre véritablement à toutes les aspirations populaires. Ça ne veut pas dire que l'aspiration telle qu'elle, comme elle s'énonce, est une embardée en dehors de la démocratie par amour d'un autoritarisme.
Ce n'est pas l'expression d'un fascisme populaire,
Ça peut déboucher sur un fascisme à assise populaire, mais c'est d'abord l'expression, me semble-t-il, d'une détresse populaire. Parce que quelle est l'assise sociologique fondamentale de ces 52% de Belges qui tendraient plutôt à ce qu'on appelle une retribalisation? On parlera peut-être du terme qui, moi, me pose un peu question. La caractéristique fondamentale, c'est que celles et ceux qui sont partisans de ce modèle sont les moins diplômés, les moins instruits, ceux qui ont, à travers un parcours scolaire plus limité, moins d'armes pour décoder la complexité des enjeux et peut-être plus apprécier davantage la lenteur et la complexité des processus de décision démocratique qui doivent intégrer une multiplicité de priorités et de considérations.
Une part de la colère des Gilets jaunes, par exemple.
Bien entendu. Mais derrière ce faible capital culturel, comme on l'appelle en sociologie, vous avez des positions sociales, économiques bien déterminées. Ceux qui n'ont qu'un diplôme de l'enseignement primaire ou secondaire, moyen ou secondaire, mais sans plus, sont les personnes qui occupent des emplois moins qualifiés, moins bien payés, qui souffrent beaucoup plus des crises que nous connaissons. Du côté de l'inflation, du côté de l'approvisionnement énergétique, il faut pouvoir honorer ses factures. La crise du logement, la montée du coût du logement, toutes les formes aussi de précarité et de situations atypiques. Les mamans seules avec un seul salaire qui ne parviennent pas à obtenir la pension alimentaire de leur ancien conjoint, les personnes à horaires coupés ou à temps partiel qui n'ont pas les moyens de se sentir en sécurité, les toutes petites pensions. Donc, derrière le caractère sociologiquement typé au terme de niveau de diplôme, il y a de toute évidence une population qui est beaucoup plus fragile. Et j'ai été frappé par un autre élément, c'est l'insistance sur le fait que les dirigeants doivent tenir compte de notre situation spécifique, chacun individuellement. Et là, il y a une racine objective. Nous ne sommes plus dans une société assez simple, des agriculteurs, des indépendants, des ouvriers, des cadres et des capitalistes. Il y a une foule de statuts, de volumes horaires, de rapports au travail, des personnes qui sont à moitié au chômage, à moitié à l'emploi, qui sont à moitié à l'emploi et à moitié à l'emploi en noir, etc., etc. Et donc, toutes ces personnes qui se sentent négligées par un système qui fonctionne quand même encore en partie sur des bases un peu plus simplificatrices, lancent un cri d'alerte. Personnellement, c'est ça qui me frappe le plus.
Lorsque l'on en est à des seuils de 52 ou 62% qui disent « notre priorité, c'est nous », hein, c'est que vous nous preniez en charge et que vous nous écoutiez, et que nos aspirations soient rencontrées, c'est quand même assez antinomique du phénomène de la démocratie, dans la mesure où c'est quand même ce qu'on va simplifier en appelant la dictature de la majorité. Or, la démocratie se définit quand même aussi par le respect des voix minoritaires. Or, tous les groupes de pression, les corps intermédiaires, les syndicats sont mis dans le même sac en disant « empêcheurs de tourner en rond, rentrez à la maison ».
Oui, y compris la justice, ce qui est évidemment inquiétant parce qu'elle est là pour défendre un certain nombre de droits fondamentaux.
C'est même le dernier rempart aujourd'hui quand le législatif est un peu mis en congé.
Tout à fait. Donc, il y a effectivement, potentiellement, toutes ces inquiétudes que l'on peut nourrir à partir de cette situation. Pour autant, je persiste à ne pas penser qu'il y a une demande d'un État fort, d'un État négateur
des libertés. La Belgique n'est pas
préfasciste pour l'instant. La Belgique ne me paraît pas préfasciste. Et ce qui s'exprime, qui est une forme effectivement de repli sur notre situation, c'est nous qu'il faut entendre en premier. C'est la contrepartie d'un jugement qui, lui, est partagé par les autres composantes de la population, et notamment celles qui peuvent paraître plus sympathiques, évidemment, et rassurantes, les partisans d'une société ouverte. Il y a un constat partagé selon lequel on dirige essentiellement, ou on est dirigé essentiellement, par la finance, par l'économie, par l'argent.
Et ça, c'est pas faux.
Et c'est loin d'être faux. Et donc, moi, je dis avant tout une demande de rééquilibrage et de recentrage des préoccupations des pouvoirs publics vers les personnes qui ont le plus besoin de protection.
Ce que ça signifierait une société plus solidaire.
Une société beaucoup plus solidaire.
C'est pas ce qu'ils expriment directement.
Une société plus spécifiquement, plus finement adaptée ou attentive à la prise en compte de toute cette diversité de situations que j'évoquais.
Qu'on a créée.
Que l'on a créé, qu'on a laissé se créer, qui est cette diversité, la conséquence d'une évolution de civilisation puissante et à beaucoup d'égards positive.
Technologique.
C'est aussi plus d'opportunités, c'est aussi plus de choix, de type d'existence, mais avec des poches de précarité, avec des inquiétudes financières, sociales, et un déficit de reconnaissance. Et là, il y a un autre élément fondamental, c'est que je crois que cette reconnaissance, ça n'est pas seulement « donnez-nous de meilleures allocations, une meilleure pension, une meilleure garantie contre le chômage », augmenter les salaires au rythme de l'inflation. En Belgique, ça se fait en pratique.
On l'a vu.
C'est aussi une demande de reconnaissance symbolique. C'est une demande de respect. Et ça, c'est le reflet d'une évolution sociologique qu'aucun dirigeant n'a programmée et que tout le monde n'a pas encore prise en compte, qu'on appelle l'individualisme et qui s'accompagne d'une exigence de prise en compte de la dignité, de la singularité, du droit à bien vivre, de chaque personne, avec un refus d'encore admettre qu'il y aurait des élites qui savent et qui savent faire, et que les humbles doivent oublier leur esprit critique et attendre qu'on leur apporte ce à quoi ils auraient droit. Il y a maintenant une égalité de principe de toutes les personnes qui se jugent également capables d'évaluer, d'exiger, de savoir ce qu'il convient de faire, même si un certain nombre se trompent sûrement dans leurs analyses. Et donc, l'impression de ne pas être entendu est vécue comme du mépris. Ça n'est pas un simple oubli, c'est une violence symbolique. Et ça, c'est un élément dont les responsables politiques doivent de plus en plus tenir compte parce qu'il est central aujourd'hui.
Alors, on revient effectivement sur cette notion de tribalisation ou retribalisation. J'ai le souvenir effectivement qu'à la fin des années 90, dans un dictionnaire pour le 21e siècle, Jacques Attali préfigurait l'idée que nous allions effectivement être multitribaux, en quelque sorte, par des affiliations effectivement technologiquement possibles à des groupes très divers et répandus sur la planète au-delà des frontières. Mais ici, cette retribalisation, c'est plutôt un repli sur l'identité locale, sur un groupe constitué, un groupe donné. Or, en même temps, cette retribalisation serait donc éminemment concurrentielle de cette individuation que vous venez d'évoquer.
Je ne crois pas, parce que dans l'individualisme, il y a l'aspiration, encore une fois, à la reconnaissance par autrui, dans ma personne, ma singularité, ma dignité, mes droits. Et cette reconnaissance, elle se fait aujourd'hui, on l'attend aujourd'hui, en effet, de groupes d'affinité, de groupes de proximité, avec un principe ou l'autre qui nous rassemble, la langue, la culture, la religion, une pratique sportive.
La couleur.
Éventuellement la couleur,
on va
le
l'évoquer,
sexe,
hein, parce que...
l'appartenance à une minorité en termes d'orientation sexuelle, mais aussi des aspirations culturelles, un mode de vie, un langage chez les jeunes, etc. Je veux dire par là que, personnellement, je ne suis pas du tout hostile à l'usage du terme de tribu qu'on trouve dans retribalisation. Je l'enseigne à mes étudiants à travers notamment un livre de Michel Maffezoli qui date de 1988, Le temps des tribus. Mais Maffezoli montrait bien que ces tribus sont de toute nature. Ça n'est pas forcément un recentrage inquiétant sur moi, ma religion, mon ethnie, mon groupe et tous les autres sont forcément des ennemis ou des étrangers.
Parce qu'on peut être polyappartenant à ces tribus.
D'abord parce qu'on peut être polyappartenant et puis parce que cette entrée ou cette pratique de partage à l'intérieur d'une ou deux tribus ne signifie pas forcément qu'on veut mettre les autres de côté. Il y a cette dimension dans l'enquête. Il y a manifestement l'expression de difficultés de cohabitation et d'inquiétude face à l'immigration, face à une société métissée, face à l'affirmation d'un certain islam politique. Je ne veux pas du tout sous-estimer cette dimension et elle pose des questions. Elle s'ancre dans des réalités de difficultés de vie quotidienne et dans toute une série de fantasmes et de peurs.
Et d'images véhiculées par les médias aussi.
Et d'images véhiculées par les médias. Mais je suis très frappé par le fait que quand on décortique les affirmations privilégiées de ce groupe partisans de la retribalisation, ils sont beaucoup plus insistants et massivement insistants sur la nécessité de cette efficacité démocratique à travers des processus plus rapides et plus forts que sur cette question du repli ethnique, religieux ou autre, qui est moins partagé. Donc ne mettons pas ce groupe de 52% dans un sac unique.
Oui. Alors, quand on voit ceux qui caractérise l'aspiration à la retribalisation, l'enquête dit plutôt âgés de plus de 35 ans, on aurait pu attendre l'idée que ce soit plutôt les plus jeunes affiliés aux réseaux dits sociaux, aux nouvelles technologies qui l'expriment. Bon, 35 ans, c'est évidemment pas les plus vieux, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ça démarre surtout vers l'âge de plein exercice de la vie, mais diplôme faible ou moyen, plutôt habitant en Flandre, en Wallonie, qu'à Bruxelles. Donc, à Bruxelles, on est plutôt dans la société plus ouverte, alors qu'on aurait pu imaginer que, logiquement, les tensions, notamment ethniques, notamment religieuses, notamment d'expression, se concrétisent là.
Oui, c'est une des possibilités. Bruxelles est un cas un peu particulier en Belgique. On aurait pu se dire, les chiffres vont être particulièrement alarmants parce qu'il y a des conflits, des clivages dans la ville. En même temps, on sait que ça n'est pas une ville particulièrement traversée par des réactions de violence. Il y a un problème entre une partie de la jeunesse et la police, ou les forces incarnant l'autorité en général, mais on n'est pas... ce n'est pas l'équivalent de certaines banlieues françaises. Par ailleurs, pour ce qui concerne Bruxelles, il faut quand même être d'une prudence extrême, et c'est malheureusement un classique, pour des raisons de moyens. L'enquête est fondée sur un sondage auprès de 1059 personnes au total en Belgique. Ça veut dire moins de 600 en Flandre, moins de 400 en Wallonie, et si je ne me trompe, à peu près 100 à Bruxelles. Ouais. Pour une ville aussi complexe, 100 personnes, inévitablement, là, vous avez un risque de distorsion par rapport à la réalité fine qui est élevé. Donc, je pense qu'il faut être très prudent dans le maniement des chiffres concernant Bruxelles.
En tout cas, ce qui est transversal, hein, c'est on ne comprend plus ce que l'on vit et le système est illisible. Et on a cultivé tant d'années, de décennies. Je pense que depuis le début de ma carrière, Vincent de Corbiter, et depuis que je vous ai invité le premier jour, on parle de cette lasagne institutionnelle incompréhensible. Même les spécialistes s'y perdent, alors forcément les gens.
Oui, d'où l'aspiration à un système plus simple, plus direct, qui serait aussi plus lisible, en dehors du fait qu'il est plus efficace. Jules Ferry disait en substance, la dictature sera toujours plus simple que la démocratie. Historiquement, ce n'est pas vrai. Le nazisme était très compliqué et la Chine actuelle est très compliquée aussi. Mais il y a cette idée que l'on pourrait gagner en efficacité et en dépenses en simplifiant.
Est-ce que l'efficacité est forcément synonyme de liberté et d'épanouissement, parce que les systèmes efficaces en entreprise sont parfois des systèmes très asservissants.
Mais il faut voir à l'égard de quoi on est efficace, à l'égard de quelle finalité. Il me paraît clair que s'il s'agit de respecter au maximum la diversité des attentes populaires, ce ne sera jamais simple ni rapide, précisément parce que cette diversité, comme je l'évoquais tout à l'heure, est extrême. On peut peut-être inventer des voies parallèles, et d'ailleurs les auteurs de l'étude l'évoquent en conclusion, une démocratie qui ne soit pas seulement fondée sur nos partis politiques, notre fédéralisme complexe, nos systèmes de négociation avec une multitude d'acteurs, comme on l'avait vu pendant la crise sanitaire, les codéco avec tous les niveaux de pouvoir, mais aussi tous les groupes de pression qui allaient voir les différents ministres. Ben, c'était risible, et en même temps, c'était indispensable pour que presque tout le monde s'y retrouve. Et on a pu remarquer que des milieux professionnels qui, eux, n'avaient pas des relais aussi efficaces, comme la culture, par exemple, moins bien organisés que l'ORECA, trouvaient nettement moins leur compte dans les décisions qui étaient prises. Donc, on a malheureusement besoin d'une très grande complexité pour faire remonter la multiplicité des attentes. On doit sans doute créer de nouvelles enceintes ou de nouvelles procédures qui permettent aux citoyens d'avoir le sentiment qu'ils font partie prenante, qu'ils sont partie prenante de ces processus.
Même les tenants d'une société ouverte demandent une régénération de la démocratie. Hein.
Oui, bien entendu.
Quoi qu'il en soit, l'aspiration, comme je vous le disiez, est transversale. Hein.
Tout le monde a compris.
Mais pas la solution.
Tout le monde a compris que c'est trop lent, que les résultats n'y sont pas, que c'est illisible et que l'adhésion est en chute libre. Donc, il est clair qu'on ne peut pas continuer ainsi, pour le dire très simplement.
Entre ceux et celles que l'on a classifiés, hein, plus ou moins 22,9% dit l'enquête, dans les tenants d'une société plus ouverte et les autres qui seraient donc tenants d'une société moins ouverte, hein, plus retribalisée ou plus autoritaire, c'est selon... On a le sentiment, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est créé par un schéma d'enquête qui n'est peut-être pas assez fin, qu'il y a un fossé qui se creuse et qu'on va assister à une espèce de dualisation forte de la société qui pourrait se traduire dans les urnes et pourrait se traduire par des réactions violentes?
Alors, le philosophe Kant disait « la nature ne répond qu'aux questions qu'on lui pose ». Une enquête ne répond qu'aux questions que les enquêteurs posent aux sondés. Et ils le savent, ils le disent, ce sont des types idéaux. À la manière de Max Weber, on va simplifier la réalité pour cerner deux grandes logiques qui sont aujourd'hui incontestablement fondamentales, ces deux grandes aspirations politiques. Il y a un groupe non négligeable appelé ambivalent. Dans l'enquête réalisée en 2015-2016, qui était parue en 2017, il y avait un troisième groupe, les traditionalistes. un peu plus aisé et un peu plus âgé que la moyenne, assez souvent de tradition catholique, qui ne rejetait pas le système, au contraire, mais qui commençait à avoir certaines formes de malaise et une certaine tendance au repli. Ils ont disparu parce que l'enquête se donne comme objectif de creuser la dynamique et la complexité interne de ces deux grandes tendances qui sont distinguées, retribalisation et société ouverte. Si on traduit ceci, ce que ne font pas les enquêteurs par prudence, en aspiration politique, on voit bien en quoi la retribalisation, on l'a dit, peut conduire au populisme de droite, voire à l'extrême droite, éventuellement. La société ouverte est politiquement bien incarnée, globalement, par des partis écologistes, éco-socialistes, en bonne partie, sans doute aussi en Belgique, par le PTB. Par contre, des personnes qui se retrouvent pleinement dans la pensée, le programme du libéralisme, à mon avis, ne sont dans aucun des deux groupes. Ceux qui s'inscrivent dans le centre de tradition chrétienne ou non ne se retrouvent sans doute pleinement dans aucun des deux groupes. Ça aurait été évidemment passionnant de voir l'enquête s'accompagner d'un volet. Quelles sont les aspirations électorales ou les votes pratiqués par les membres de chacun des deux groupes? Peut-être les enquêteurs ont-ils décidé de ne pas le faire parce qu'ils savent bien que ça risque de ne pas être totalement représentatif. Je veux dire par là qu'on a quand même un échantillon global qui n'est pas énorme, région par région, et singulièrement pour Bruxelles. Et donc demander une traduction en vote, ça risque de donner des résultats trompeurs. Mais on sent très bien que ce clivage global entre deux aspirations, qui sont celles que l'enquête a décidé d'étudier, ne recouvre pas la complexité du champ politique. Dans les 52% de partisans d'une certaine retribalisation, il y a certainement une très grande diversité interne, des personnes plus modestes, issues de l'immigration ou non, des personnes de la classe moyenne mais qui se sentent en voie de précarisation, etc., etc., des traditionalistes qui ne se retrouvent dans aucune et qui ne se retrouvent pas dans la société ouverte, etc.
Pour en avoir le fin mot bref aujourd'hui de ce qu'on a dit, sans négliger tout ce qui reste à dire, à décortiquer et à affiner, Vincent de Corbitaire, noir, jaune, blues. Est-ce que ce blues rythme avec ce mot victime, hein, vous disiez pas d'estime de soi, manque de reconnaissance, etc., mais on est un peu dans une société victimaire quand même.
En l'occurrence, c'est clair que ce groupe qui attire le plus l'attention, celui dont la récupération politique est pourrait être inquiétante, se vit comme victime, se vit comme étant du côté des perdants. On le voit des questions plus fines que l'on a posées. Avez-vous l'impression qu'il y a toujours des gagnants et des perdants dans la société ?
Réponse
massivement,
oui.
Les membres de ce groupe disent oui. Ceux qui sont partisans d'une société ouverte, très massivement, disent non. Parce que ce sont des inclus, des personnes qui ont des perspectives, qui ont une certaine sécurité, qui peuvent voir l'avenir de manière plus positive, ayant une assise forte. Donc, il y a clairement ici une forme de victimisation dans cette complainte consistant à dire « on ne nous écoute pas, on ne prend pas en compte notre situation ». Et là, me semble-t-il, des bases objectives, et une part sans doute fantasmatique, parce qu'après tout, on a pris soin de tout le monde, face en tout cas au Covid, y compris sur le plan financier, les droits passerelles pour les indépendants, le chômage économique pour les salariés. Mais il y a le sentiment que ça ne suffit pas, que la vie devient plus difficile, que nos enfants vivront moins bien que nous, que la précarité ou la menace de précarité s'installe. Et donc, il y a là une forme de victimisation qu'on ne doit pas forcément interpréter dans des termes négatifs. Moi, je pense qu'il faut surtout être attentif aux bases objectives, et c'est là, moi je trouve que l'enquête est la plus inquiétante, comment modifier cette situation socio-économique qui est un des ressorts de cette tendance politique inquiétante et comment élever massivement le niveau d'instruction qui est un autre ressort de cette manière d'analyser la démocratie. Ce sont deux défis radicaux qui vont bien au-delà d'un travail sur les mentalités.
Merci en tout cas de l'avoir entamé avec nous ce soir dans le fin mot.
Merci à vous.